Si à la première audition, l'Évangile seul, pris seul, peut nous laisser un peu circonspects, les deux lectures qui l'accompagnent nous donnent une certaine orientation pneumatique. Là où d'aucuns pourraient voir un jeu de cache-cache annoncé par Jésus, se profile en réalité l'annonce d'une personne divine, le Saint-Esprit. Cet évangile vise à nous poser dans le désir, dans l'attente de la venue de l'Esprit d'ici quelques jours. Il y a tout d'abord la première parole de Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Comment la recevons-nous? Peut-être penserait-on assez spontanément à une sorte de test porté par une phrase au conditionnel. Ainsi, garder les commandements de Jésus serait une sorte de probation de notre amour pour lui. Il me semble qu'il existe une autre lecture, bien plus belle, même si celle-ci n'est pas inutile. Peut-être vous souvenez-vous de Zoé, mon héroïne préférée dans le documentaire sur le Sacré-Cœur, vous l'avez peut-être deviné. Peut-être vous souvenez-vous de Zoé qui intervient donc dans ce documentaire sur le Sacré-Cœur. Cette jeune femme raconte qu'elle s'est faite une amie. Et elle ajoute cette phrase absolument extraordinaire. Elle ajoute que cette amie devenait pour elle tellement chère qu'elle désirait faire avec elle quelque chose qui lui fit plaisir. C'est profond, hein ? Si l'on applique cette très belle et très noble attitude à Jésus, on en vient à dire « Je l'aime tellement que je veux absolument faire avec lui quelque chose qui lui fasse plaisir. » N'est-ce pas le sens de l'affirmation de Jésus ? Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Oui, il les gardera parce qu'il voudra faire avec moi quelque chose qui me remplisse de joie. Et cette joie sera d'accomplir les paroles du Père qu'il nous a toutes dites. Je vous ai dit tout ce que le Père m'a dit. Alors sa joie sera en nous. Il ne s'agit donc plus de regarder les commandements ou de garder les commandements pour prouver son amour, mais d'aimer afin de désirer faire plaisir à Jésus. Cela s'appelle aimer Dieu pour Dieu. Et qui fait aimer? L'Esprit-Saint. Mais cet esprit, le monde ne peut pas le recevoir. Jésus le dit. Il ne peut pas le recevoir parce qu'il ne l'attend pas. Et Jésus ajoute cette phrase stupéfiante et dit que le monde ne le voit pas. Les apôtres ont-ils vu l'Esprit? Eh bien oui! Les apôtres ont vu l'Esprit à l'œuvre, mais ils l'ont vu à l'œuvre de l'extérieur, ils ne l'ont pas encore seulement vu à l'œuvre comme quelqu'un qui agit, ils l'ont seulement vu à l'œuvre comme quelqu'un qui agit de l'extérieur, quelqu'un qui demeure auprès d'eux, Jésus l'a dit, il est auprès de vous. Le monde, lui, ne suspecte pas l'Esprit. Et c'est pourquoi il ne peut pas le voir. Il rationalise et cherche à scientifiser tout. Or, à ses apôtres, Jésus annonce une étape nouvelle dans la connaissance de cet Esprit. Il va s'agir de le recevoir à l'intérieur. Il sera en vous, leur dit Jésus. Jésus leur annonce que l'Esprit invisible va bientôt demeurer en eux, à l'intérieur, comme quelqu'un qui habite, qui est reçu, accueilli, écouté, entendu, suivi. Et justement, cet Esprit invisible, une fois qu'il s'est intériorisé aux apôtres, si je puis dire, il fait voir, il fait connaître et reconnaître. C'est lui qui va donner le désir d'aimer tellement Jésus, de le connaître, que l'âme sera portée à chercher à connaître comment accomplir avec lui quelque chose qui lui fasse plaisir. Seulement, voilà, Jésus apprend à ses apôtres qu'il y a une condition non négociable et aussi non négligeable. L'inhabitation visible de l'esprit invisible passe par l'invisibilité de Jésus. C'est tout de même un drôle de cache-cache. Or, Jésus annonce qu'il va justement se cacher dans le Père qui est déjà en lui et en qui il est lui aussi. Et pour manifester déjà cette vérité à ses apôtres, Jésus a cette parole curieuse, « Je ne vous laisse pas orphelins ». Voilà bien une parole paternelle et non point fraternelle. Jésus va donc devenir invisible, mais les apôtres le verront, eux. Et si Jésus fait allusion ici à sa résurrection, évidemment, il montre aussi que cette reconnaissance du ressuscité passera par l'action invisible de l'Esprit qui rend visible le ressuscité devenu invisible au monde. Et notre évangile se referme comme il s'est ouvert, avec cette invitation à l'amour. Pourtant, vous l'avez remarqué peut-être, un mot change. Il ne s'agit plus seulement de garder les paroles de Jésus, mais d'abord de les recevoir. Or, justement, pour les recevoir, il faut encore l'Esprit. L'Esprit donne le sens, l'Esprit donne la délicatesse et la finesse d'esprit. C'est le cas de le dire. Car désirer faire quelque chose pour l'être que l'on aime à la folie est une chose, mais discerner en quoi consiste exactement cette chose demande une finesse et une attention, une finesse d'âme qui sont l'œuvre seule de l'Esprit. Cette finesse et cette attention font justement la différence qui n'est pas petite, entre aimer Dieu en vue de soi et parvenir doucement et avec le temps à aimer Dieu en vue de Dieu, comme le révèle très finement Paul Giustiniani dans sa doctrine érémitique. C'est une chose d'aimer Dieu en vue de soi, évidemment sans s'en rendre compte. et d'aimer Dieu en vue de Dieu. Et alors Jésus se manifeste et sort de sa cachette. Amen.